À mon sens, les réformateurs ont causé plus de tort à eux seuls que n'importe quelle autre force dans toute l'histoire humaine. Montrez-moi quelqu'un qui déclare « Tout cela doit être changé » et vous aurez devant vous une tête gonflée d'intentions pernicieuses qui n'ont aucun autre exutoire. Ce que nous devons au contraire nous efforcer de faire toujours, c'est découvrir les cours naturels des choses et nous y insérer sans heurts. Révérende Mère Taratsa, extrait d'une conversation, dossier GSXXMAT 9 du Bene Gesserit. Le ciel se dégageait progressivement, tandis que le soleil de Gameux accomplissait son ascension, libérant les odeurs d'herbes et de forêts environnantes que la rosée du matin avait condensées. Duncan Idaho se tenait devant l'une des fenêtres interdites, respirant les senteurs qui parvenaient à lui. Ce matin-là, Patrine lui avait dit
« Tu as 15 ans maintenant. Tu ne dois plus te considérer comme un enfant, mais comme un jeune homme.
C'est mon anniversaire ?» La conversation avait lieu dans la chambre de Duncan, où Patrine venait de le réveiller en lui apportant un jus de fruits.
« Je ne sais pas quel est ton anniversaire.
Les Golas en ont-ils ?»
Patrine ne répondit pas. Il était interdit d'aborder ce sujet avec le jeune Gola.
« Shvangyu t'a dit que tu n'avais pas le droit de répondre à cette question, » fit Duncan.
« Le Bachar m'a demandé de te dire, » murmura Patrine d'une voix visiblement embarrassée,
« que ta leçon n'aura pas lieu comme d'habitude ce matin. Il voudrait que tu reprennes les exercices des genoux et des jambes jusqu'à ce qu'il te fasse appeler. »«
Mais j'ai passé toute la journée d'hier à les faire. » »«
Je t'ai simplement dit ce que le Bachar avait ordonné. »
Patrine prit le verre vide et se retira. Duncan s'habilla rapidement. On devait l'attendre à l'intendance pour le petit déjeuner.
Qu'ils aillent au diable.
Ils n'avaient pas besoin de leur petit déjeuner. Que faisait donc le Bachar? Pourquoi ne pouvait-il commencer la leçon à l'heure? Les genoux et les jambes, c'était juste pour le faire patienter tandis que quelque chose d'imprévu l'occupait ailleurs. Rageusement, Duncan prit un couloir interdit qui menait à une fenêtre interdite.
Et tant pis si ces maudits gardes se font encore punir.
Les odeurs qui montaient de la fenêtre ouverte étaient évocatrices, mais il était incapable d'identifier les souvenirs qui se pressaient à la lisière de son esprit conscient. Il avait cependant la certitude qu'il s'agissait bien de souvenirs. Il trouvait cela à la fois effrayant et exaltant. Comme de marcher au bord d'un précipice ou de défier ouvertement Shvangyu. Il n'avait jamais fait ni l'un ni l'autre, mais il pouvait l'imaginer. Il lui suffisait de voir dans un livre l'illustration holo d'un sentier de falaise pour que son estomac se resserre.
Quant à Shvangyu, il imaginait souvent qu'il se révoltait contre l'un de ses ordres et il éprouvait alors la même réaction viscérale.
« Il y a quelqu'un d'autre dans ma tête », se disait-il. Pas seulement dans sa tête, mais dans son corps aussi. Il éprouvait des sensations bizarres, comme s'il venait de se réveiller après un rêve qu'il était incapable de se rappeler. La matière du rêve nécessitait certaines connaissances qu'il ne pouvait posséder. Et pourtant, il les possédait. Il était capable de nommer certaines essences d'arbres dont le parfum montait jusqu'à lui et qui ne figuraient pourtant dans aucun dictionnaire de la bibliothèque. Cette fenêtre interdite était ainsi appelée parce qu'elle était percée dans l'une des murailles de la citadelle et qu'elle n'était pas munie de barreaux. On l'ouvrait souvent, comme à présent, pour aérer.
On pouvait l'atteindre de la chambre de Duncan en grimpant à la balustrade de son balcon et en se glissant dans le puits de ventilation d'une remise située à l'étage.
Il avait appris à le faire sans que personne s'en doute. Très tôt, on lui avait fait comprendre que ceux qui étaient formés par le Bene Gesserit étaient capables de tirer parti des plus petits détails. Grâce aux enseignements de Teg et de Lucille, il avait lui-même progressé considérablement dans cet art. Dans l'ombre du couloir où s'ouvrait la fenêtre, Duncan observait les pentes boisées qui grimpaient jusqu'aux cimes nues. Il trouvait cette forêt impressionnante. Ces pinacles rocheux avaient quelque chose de magique. Il était facile d'imaginer qu'aucun humain ne les avait jamais touchés. Comme ce serait merveilleux de s'y perdre, de s'y retrouver seul avec soi-même, sans se soucier de cette autre personne qui le hantait comme une présence étrangère. En soupirant, Duncan se détourna et regagna sa chambre par son passage secret. Ce n'est que lorsqu'il s'y retrouva bien à l'abri qu'il s'autorisa à se dire qu'il avait réussi encore cette fois-ci. Personne n'allait être puni à cause de lui. Les châtiments et la souffrance qui entouraient comme une aura les endroits interdits n'avaient pour seul effet que d'inciter Duncan à redoubler de précautions chaque fois qu'il enfreignait une règle. Il ne voulait pas penser à la douleur que lui infligerait Shvangyu si elle le surprenait dans l'un des endroits interdits. Mais même la plus terrible punition, se disait-il, ne le ferait pas plier. Il n'avait jamais plié devant ses mauvais coups. Il se contentait de la regarder dans les yeux, haineusement, absorbant la leçon. Pour lui, la leçon donnée par Shvangyu était toujours la même. Il devait renforcer son aptitude à se déplacer sans qu'on le voie, sans faire de bruit et sans laisser la moindre trace de son passage. Assis au bord de son lit, Duncan contemplait le mur blanc qui lui faisait face. Un jour, à force de le fixer ainsi, une image s'y était formée, celle d'une jeune femme aux cheveux ambrés et à la courbe du visage adorable. Elle le regardait en souriant. Ses lèvres avaient remué sans qu'il en sorte un son, mais Duncan avait déjà appris à lire sur les lèvres, et ses mots ne faisaient aucun doute. « Duncan, mon Duncan adoré. » Était-ce sa mère? Sa vraie mère? Même les Golas avaient une mère, perdue quelque part dans la nuit des temps. Au fond des cuves Axlotl se cachait l'image d'une vraie femme qu'il avait portée dans son ventre et qu'il aimait. Oui, qu'il aimait, parce qu'il était son enfant. Si l'image sur ce mur était celle de sa mère, comment était-elle arrivée jusqu'ici? Il n'avait aucun moyen de l'identifier, il souhaitait simplement de tout son cœur que ce fût sa mère. Cette expérience le terrorisait, mais la terreur ne l'empêchait pas de souhaiter qu'elle se renouvelle. Quelle que fût l'identité de cette jeune femme, sa présence éphémère l'avait marquée. L'étranger qui le hantait la connaissait bien. Il en était sûr. Il y avait des moments où il souhaitait se fondre avec cet étranger, seulement pour un instant, afin de mettre la main sur tous ses souvenirs cachés. Mais cette pensée l'effrayait. Il avait peur de perdre son identité, si l'étranger pénétrait dans sa pensée consciente. Il se demandait si cela ressemblerait à la mort. Duncan avait été en présence de la mort avant d'avoir 6 ans. Les défenseurs de la citadelle avaient repoussé une troupe d'assaillants et l'un des gardes avait été tué. 4 assaillants avaient également trouvé la mort. Duncan avait vu les cadavres que l'on ramenait à la citadelle, avec leurs muscles flasques et leurs bras traînants. Quelque chose d'essentiel les avait quittés. Leur mémoire n'existait plus, il ne leur restait rien pour évoquer leurs souvenirs intérieurs ou leurs souvenirs étrangers. Les 5 corps avaient été transportés dans les profondeurs de la citadelle. Duncan avait entendu l'un des gardes qui disait plus tard que les 4 intrus avaient été trouvés bourrés de chérés. Ce fut à cette occasion que Duncan entendit parler pour la première fois des sondes ixiennes. Une sonde ixienne permet de lire même les dernières pensées d'un mort, lui avait expliqué Geassa. Le chéré est une drogue qui protège de cette sonde. Les cellules nerveuses ont le temps de mourir totalement avant que les effets de la drogue ne disparaissent. En écoutant discrètement les conversations, Duncan apprit que les 4 intrus étaient tout de même sondés par d'autres moyens. Ces moyens ne lui furent pas expliqués et il avait l'impression qu'il s'agissait de techniques secrètes propres aux Bene Gesserit. Encore un truc diabolique de ces maudites révérendes mères, se disait-il. Elles étaient capables de faire revivre les morts pour extorquer des informations à leurs lèvres récalcitrantes. Et Duncan imaginait des visages sans vie, grimaçant au bon plaisir d'une démoniaque opératrice. L'opératrice était toujours Shvangyu. Ces images occupaient l'esprit de Duncan malgré tous les efforts de ses professeurs pour lutter contre l'ineptie qu'engendre l'ignorance. Il lui enseignait que les récits fantaisistes qui circulaient n'étaient propres qu'à entretenir la crainte du Bene Gesserit parmi les non-initiés. Mais Duncan refusait de se considérer comme un initié. Chaque fois qu'il voyait une révérende mère, il pensait « Je n'ai rien de commun avec ces femmes ». Lucille insistait beaucoup sur ces choses ces derniers temps. « La religion est une source d'énergie, » disait-elle. « Tu dois savoir identifier cette énergie et l'utiliser à tes propres fins. » « À leur fin et non pas aux miennes, » songeait Duncan. Il imaginait ce qu'il ferait s'il suivait ses propres inclinations et se voyait triomphant du Bene Gesserit et tout spécialement de Shwangyu. Il soupçonnait que de telles projections mentales étaient issues d'une réalité souterraine qui se confondait avec celle où résidait l'étranger qui le travaillait. Mais il avait appris à hocher docilement la tête en donnant l'impression que lui aussi trouvait ses crédulités religieuses amusantes. Lucille avait su reconnaître cette dichotomie. Elle avait expliqué à Shwangyu « Il est convaincu de l'existence de forces mystiques redoutables qu'il vaut mieux si possible éviter. Tant qu'il persistera dans cette croyance, il sera incapable d'apprendre à se servir de nos connaissances les plus fondamentales. » Elle s'était réunie à l'occasion de ce que Shwangyu appelait une séance de concertation régulière. C'était juste après leur frugal repas du soir et les bruits de la citadelle évoquaient la transition. Les patrouilles de nuit prenaient leur service. Ceux qui n'étaient plus de garde jouissaient de l'une de leurs rares périodes de détente. Le bureau de Shwangyu n'avait pas été entièrement isolé de ces bruits-là. C'était délibéré. Les oreilles exercées d'une révérende mère pouvaient, grâce à eux, en apprendre long sur ce qui se passait autour d'elle. Ces réunions de concertation préoccupaient de plus en plus Shwangyu. Il devenait évident que Lucille ne pouvait être gagnée à la cause de celle qui s'opposait à Taratsa. Lucille était insensible aux subterfuges manipulateurs d'une révérende mère. Le plus ennuyeux était que Teg et elle avaient parti liés pour inculquer au Gola des capacités hautement explosives. C'était dangereux à l'extrême. Indépendamment de tous ses autres problèmes, Shwangyu commençait à nourrir pour Lucille un respect de plus en plus grand. « Il croit que nous faisons appel à des pouvoirs occultes pour pratiquer nos arts ?» poursuivit Lucille. « Comment a-t-il pu arriver à de telles conclusions ?» Shwangyu ressentait le désavantage imposé par cette question. Lucille savait déjà que cela avait été voulu pour affaiblir le Gola. Elle était en train de lui dire « La désobéissance est un crime contre la communauté des sœurs. »«
Si ce sont nos connaissances qu'il désire acquérir, » répondit-elle, « je suis certaine que vous vous chargerez de les lui transmettre. »
C'était la vérité, quel que fût le danger qu'il y avait à le faire aux yeux de Shwangyu.
« Sa soif de connaissance est le meilleur levier dont je dispose, » répondit Lucille. « Mais vous savez comme moi que ce n'est guère suffisant. »
Il n'y avait aucun reproche dans sa voix, mais pour Shwangyu, la chose était implicite.
Maudite soit-elle, elle essaie de me rallier à sa cause.
Plusieurs répliques lui traversèrent l'esprit.
« Je n'ai jamais désobéi aux ordres. »
La piètre excuse. Le Gola a été traité selon les méthodes habituellement pratiquées par le Bene Gesserit pour la formation des élèves. Non seulement inexact, mais inapproprié. Le Gola n'était pas un élève comme les autres. Il y avait en lui des profondeurs qui ne pouvaient être égalées que par une révérende mère en puissance. Et c'était bien là le problème.
« J'ai commis certaines erreurs, » dit-elle à haute voix.
Là, c'était le genre de réponse à double tranchant que seule une autre révérende mère était à même d'apprécier.
« Vous n'avez pas commis d'erreur en l'endommageant, » lui dit Lucille.
« Mais je n'avais pas prévu qu'une autre révérende mère découvrirait ses failles. »
« Il ne veut acquérir nos pouvoirs que pour nous échapper. Il pense... Un jour, j'en saurai autant qu'elle et je pourrai m'enfuir. »
Voyant que Shwangyu ne répondait pas, Lucille poursuivit.
« C'est très habile. S'il s'enfuit, nous devrons le poursuivre et le détruire nous-mêmes. »
Shwangyu se contenta de sourire.
« Je ne commettrai pas la même erreur que vous, » continua Lucille. « Je vais vous dire ouvertement ce que vous finiriez par voir de toute manière. Je comprends maintenant pourquoi Taratsa a envoyé une imprégnatrice à quelqu'un de si jeune. »
Le sourire de Shwangyu disparut.
« Qu'êtes-vous en train de faire ?»«
Je le lis à moi exactement de la même manière que nous lions nos acolytes à leur maîtresse. Je le traite avec loyauté et sincérité comme s'il faisait partie des nôtres. »«
Mais c'est un mal. » »«
Oui, il ne connaîtra pas l'agonie de l'épice, mais c'est la seule différence. Et je crois qu'il commence à réagir favorablement. »«
Et quand sera venu le moment de l'imprégnation finale ?»«
Ce sera délicat, je le sais. » Naturellement, vous pensez que le processus le détruira. Cela faisait partie de vos plans.
Lucille,
La communauté n'est pas unanime derrière Taratza en ce qui concerne l'utilisation de ce gola. Je suis sûr que vous le savez. »
C'était le plus puissant argument de Shuangyu et le fait qu'elle lui réservait pour ce moment en disait long. La peur d'un nouveau Kwisatz Haderach était profondément ancrée dans les esprits et les dissensions au sein du Bene Gesserit en traduisaient l'importance.
« Il s'agit de matériel génétique du premier degré, » fit Lucille. « Il n'a pas été sélectionné pour devenir un Kwisatz Haderach. »
« Mais les clés Laxu ont transformé son patrimoine génétique. »
« Oui, sur notre demande. Ils ont accéléré ses réactions nerveuses et musculaires. »
« Et c'est tout ? » ?»«
Vous avez vu les rapports de nos spécialistes ?»«
Si nous étions aussi avancés dans ce domaine que les clés Laxu, nous n'aurions pas besoin d'eux. Nous aurions nos propres cuves, Axlotl. »
« Vous pensez qu'ils nous cachent quelque chose ?»«
Ils l'ont gardé entièrement au secret pendant 9 mois. »«
J'ai déjà entendu tous ces arguments. »
Shuangyu leva les bras en un geste de capitulation.
« Je vous l'abandonne, révérende mère. Les conséquences vous concernent seules, mais vous ne pourrez pas m'écarter de ce poste, quel que soit le rapport que vous adresserez au chapitre. »«
Vous écarter ? Certainement pas. Je ne veux pas que votre faction nous envoie quelqu'un d'inconnu. »
« Il y a une limite aux insultes que je suis disposé à accepter de votre part. » fit Shuangyu.
Et il y en a une autre à la traîtrise que Taratza acceptera de la vôtre.
S'il sort de tout cela un autre Paul Atréide, ou bien les dieux nous en préservent, un nouveau tyran, Taratza emportera la seule responsabilité, fit Shuangyu. Vous pouvez lui répéter ces paroles.
Vous serez peut-être intéressé d'apprendre, dit Lucille en se levant, que Taratza m'a laissé carte blanche quant à la quantité de mélange que je dois faire absorber au gola. Et j'ai déjà commencé à augmenter sa dose d'épices.
Shuangyu frappa des deux poings le dessus de son bureau.
Maudites soyez-vous toutes les deux. Vous allez causer notre perte.